J'avoue être un peu obsédé par un truc. C'est la numérisation de notre rapport à l'État. Le fait qu'une partie de plus en plus grande de notre vie administrative passe par des sites, des applications, ou même des chats. Alors, ça recoupe des activités très différentes, bien sûr. La déclaration d'impôts, les aides de la CAF, le bouton France Connect aussi, qui nous permet d'être identifié numériquement par l'administration, et plein d'autres choses encore. Alors, le plus souvent, quand j'y pense, c'est pour m'affliger de tous ceux et toutes celles que ça laisse au bord de la route, qui ne sont pas équipés ou qui ne comprennent rien à Internet, et qui, quand ils ont besoin de recourir aux moyens traditionnels, ont du mal à trouver un guichet, à joindre quelqu'un au téléphone, et qui doivent donc se faire aider, ou bien renoncent, tout simplement. Mais finalement, je ne me suis jamais intéressé de près à la réciproque, c'est-à-dire à la manière dont s'est imposé ce rapport à l'État. Qui l'a voulu ? Quand ? Avec quelle idée de ce que devait être une administration et la manière dont elle se met en relation avec les citoyens et les citoyennes ?
Le code a changé.
Alors, dans mon esprit, ce qui expliquait tout, c'est l'idée d'État-plateforme. On l'a beaucoup entendu répéter, cette expression d'État-plateforme. Et pour moi, ce qu'on voit réaliser aujourd'hui, c'est ça. C'est un État qui se met en relation avec ses administrés, comme le fait une plateforme, par des interfaces numériques et des services en ligne. Et donc, je me suis dit que je voulais comprendre comment cette idée était apparue, ce qu'est vraiment l'État plateforme et comment il s'est mis en place. J'ai donc demandé à Marie Alauzen de venir m'expliquer. Marie Alauzen, c'est une jeune chercheuse qui a intégré le CNRS juste après avoir soutenu une thèse sur la modernisation de l'État. Elle connaît donc tout ça par cœur. Moi, je pensais qu'en faisant l'histoire de l'État plateforme, j'allais tout comprendre. Mais c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. La preuve. Une fois que Marie a été bien installée dans le studio, je lui ai posé une question assez bateau. Enfin, je croyais que c'était une question bateau. Je voulais qu'elle m'explique l'origine de la notion d'État-plateforme.
C'est pas juste une notion, c'est pas une idéologie. Si ça apparaît, c'est que ça correspond à des pratiques sociales, ça correspond à un horizon d'attente.
Mais ça veut dire quoi, ça ?
Ça permet de casser une illusion réformatrice qu'on a à chaque fois qu'un nouveau mot apparaît. Parce qu'en fait, si le mot apparaît, c'est qu'il y a tout un univers qui existe déjà et qui permet l'apparition.
Bon, ça casse un peu mon truc. Si je comprends bien Marie, je suis moi-même victime d'illusions réformatrices quand je mets tout sur le dos de l'État-plateforme. Peut-être que cet État-plateforme, c'est pas aussi dingue que ce à quoi je m'attendais. Marie a l'air de dire qu'il faut tenir compte d'un contexte, d'un horizon d'attente, comme elle dit. J'aimerais bien qu'elle m'explique ce qu'elle entend par là.
Par exemple, parce qu'il y a des idées vieilles sur le fait que l'administration, la bureaucratie ne sont pas très efficaces, qu'elles ne sont pas suffisamment au service des usagers des services publics, parce que ce discours anti-bureaucratique a une longue histoire qu'on peut rattacher à socialisme et barbarie ou plein d'autres événements historiques du XXe siècle, on peut considérer que c'est pour ça que l'État-plateforme va réussir à s'imposer comme programme d'action dans la modernisation de l'État et donc qu'il va devenir un programme d'action de la modernisation de l'État, caractéristique du mandat de François Hollande en France.
J'y avais pas pensé. Mais c'est évident maintenant que Marie le dit. Pour qu'on ait envie de moderniser l'État, pour que sa plateformisation ait l'air d'une bonne idée, il faut avoir des choses à reprocher à son fonctionnement. Et ces reproches, on les connaît, ils sont anciens. La paperasse, les queues au guichet, etc., etc. Mais je suis un peu étonné qu'il soit endossé par un gouvernement censément de gauche. Bon, peut-être qu'il y a des raisons à ça. Et c'est un peu ce que m'explique Marie.
L'idée de l'État-plateforme, telle qu'elle est énoncée dans le livre « L'âge de la multitude » de Colin et Verdier, qui est publié donc en 2012, peu après l'élection présidentielle de François Hollande, c'est une idée qui est rattachée à donc Tim O'Reilly, qui est donc un gourou des technologies américains, « The government as a platform ».
If you've been following what I've been writing and speaking about in the government space, you know, I've been talking about this idea of government as a platform.
Dans lequel il fait en fait une analogie avec Apple Store. L'idée, c'est que le gouvernement doit avoir la même intelligence qu'a eu Apple Store en construisant un monopole, un espace dans lequel s'organisent les transactions des apps. Et donc cette idée que l'intelligence collective, les gens s'agrègent à cette plateforme unique, peut être importée dans la philosophie politique, ou en tout cas la manière d'envisager l'État en France, ça arrive en 2012 sous cette forme-là. C'est quelque chose qui ensuite va faire recette, puisqu'il y a l'idée de dire que l'État doit s'inspirer du meilleur des technologies, donc la Silicon Valley, telle qu'elle enthousiasme le monde, en gros, au début du XXIe siècle.
Je me souviens très bien de la parution du livre de Nicolas Collin et Henri Verdier, L'âge de la multitude. Ils étaient assez impressionnants tous les deux. Nicolas Collin, énarque, inspecteur général des finances, Henri Verdier, normalien, entrepreneur. Ils étaient tous les deux jeunes, ils connaissaient bien la technologie. Verdier présidait le pôle de compétitivité Cap Digital, Collin en était membre. Ils étaient d'ailleurs, si je me souviens bien, assez proches du PS. Dans le milieu numérique de l'époque, le bouquin a marqué les esprits, c'est incontestable. Il est sous-titré d'ailleurs « Entreprendre et gouverner après la révolution numérique », ce qui dit bien l'ambition. Si la première partie était consacrée à l'entreprise, la seconde l'était à l'art de gouverner. Et en effet, Collin et Verdier y défendaient cette idée de la transformation de l'État en plateforme. C'est intéressant d'écouter comment Henri Verdier en parlait en 2018. Bon, à l'époque, il est à la tête de la DINSIC, c'est la Direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'État. Il est donc en charge de la mise en place de l'État plateforme. Et voici comment il le définit.
Pour nous, la DINSIC, l'État plateforme, ça commence dans une stratégie technologique. Notre socle informatique, il doit être ouvert, APIfié, plateformisé et pensé pour faciliter la réutilisation. Sur cette stratégie informatique, on peut bâtir une stratégie de création de valeur. Quand on a un socle bien modulaire, comme ça, et bien réutilisable, dans des standards ouverts et partagés, on peut créer de la valeur avec des méthodes agiles et nous avons par exemple créé une quarantaine de startups d'État où 40 fois on a réussi en moins de 6 mois pour moins de 200 000 euros à délivrer un service minimal. Puis ensuite on l'améliore et on l'enrichit. Et enfin, et c'est le plus important, cette plateforme qui est l'État, elle doit être ouverte, nourrir la multitude, se nourrir de la multitude, être hackable. Et là c'est une logique d'action publique parce qu'on peut lancer des mouvements en faisant que la société civile prolonge et amplifie notre effort.
Oui, alors là, le lien avec l'Apple Store est limpide. L'idée, c'est d'ouvrir l'État, d'une certaine manière, de rassembler et de mettre à disposition des données, ce qui permettra à la multitude de créer des services pour pas cher. L'État deviendrait donc une plateforme de services, comme l'Apple Store est une plateforme de services. Mais la question qu'on pose alors à Henri Verdier, et que je me pose aussi, c'est qu'est-ce que ça va changer pour les citoyens ? Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse.
D'abord, il y a une mécanique dont il n'a pas à en connaître, mais il se trouve que l'administration sera 10 fois plus puissante si les ministères s'échangent des données, de l'identité, du paiement, toutes sortes de ressources. Donc ça, le citoyen ne le verra pas. En revanche, il verra naître beaucoup de services publics innovants parce qu'on apprend quand même à faire des services 10 fois moins chers en recompilant ces ressources. Donc on espère qu'il verra naître une floraison de ressources. Il verra naître une diversité d'offres. Et puis surtout, on partage aussi des ressources. Et ça veut dire qu'il est beaucoup plus facile aujourd'hui de créer une entreprise quand on peut prendre les informations de la base sirène, le cadastre. Et donc on baisse aussi la barrière à l'entrée de l'innovation en créant des externalités qui, j'espère, contribuent à dynamiser l'économie.
Bon, à entendre Henri Verdier, c'est hyper ambitieux. Mais c'est quand même assez marqué. Enfin, je veux dire que dans le propos, on entend plus parler d'économie que de réforme de l'État à proprement parler. D'ailleurs, je n'avais aucun souvenir qu'on parlait à l'époque de start-up d'État. Ce qui m'étonne, c'est que cette vision très libérale que défendent Verdier et Collin, très tournée vers la création de valeur, ait pu autant séduire un gouvernement socialiste.
Ils écrivent ce livre de manière assez stratégique en organisant cette importation d'Amérique d'un concept qui peut faire recette à un moment où le gouvernement change. Il faut absolument faire table rase de ce qui s'est fait jusqu'alors sous Nicolas Sarkozy, dont on se souvient en général dans le motto « non remplacement, non fonctionnaire sur deux partant en retraite », réinventer un type de relation à l'administration qui soit peut-être un peu moins impopulaire, plus valorisante pour les agents, plus respectueuse de l'innovation. Et donc, ils arrivent avec ces idées, cette importation d'Amérique.
Importation d'Amérique, ok. Mais est-ce que c'est juste l'importation d'une idée ? Ou est-ce que ça a donné quelque chose aux États-Unis, l'État plateforme ?
Alors, ça a donné quelque chose dans le sens où ça a été traduit, alors peut-être traduit et trahi, par Barack Obama, qui, pour sa réélection, réutilise le concept d'O'Reilly de Government as a Platform, mais dans un sens totalement différent. Là, il n'y a plus de référence à l'Apple Store. On est dans l'idée que l'État doit certifier l'information. En fait, c'est les fake news avant les fake news. L'État doit se préoccuper du fait que s'il se passe une catastrophe dans un endroit aux États-Unis, c'est pas Twitter qui doit informer, c'est l'État. Ça fait aussi référence en Angleterre, aussi sur cette même forme de government as a platform. Et puis ensuite en France, où la direction interministérielle du numérique, où Henri Verdier, à l'époque nommé directeur d'Eta Lab, s'empare de ce mot d'ordre, en fait une des clés organisatrices de son programme d'action, et va se mettre à labelliser tout un tas de projets, qui étaient pour certains des projets déjà commencés, en disant « Ah bah voilà, on le fait parce que ça rentre dans ce nouveau programme qu'est l'Eta Platform, et qui génère un enthousiasme assez fort en fait, et qui permet à cette administration qui avait jusqu'alors... des recrutements d'anciens consultants très liés à un imaginaire gestionnaire auditeur, là d'accueillir des jeunes venus de la start-up qui ont lu L'âge de la multitude et qui sont passionnés, enthousiastes et qui veulent donner un sens à cette administration nouvelle qui leur est promis.
Là, je comprends plusieurs choses. D'abord, l'État plateforme, c'est une notion plastique, puisque ce que met en place Barack Obama sous ce nom, c'est pas exactement ce que prône O'Reilly. Ensuite, si je suis bien ce que dit Marie, il y a un côté opportuniste dans sa traduction française. Opportuniste dans le sens où la notion sert à réenchanter une administration mise à mal par Nicolas Sarkozy. Opportuniste aussi parce que ça permet de labelliser, comme elle dit, des choses qui existent déjà et puis des projets qui vont être lancés. Enfin, je comprends aussi que ça fait intervenir une catégorie nouvelle de population dans la modernisation de l'État. Plus des auditeurs de la vieille école, mais des start-upers, sans doute plus jeunes et en tout cas plus enthousiastes. En revanche, ce que j'ai toujours du mal à comprendre, ce sont les principes directeurs, l'idée que se font ces gens de la manière dont l'État doit fonctionner et se mettre en lien numériquement avec ses citoyens.
Moi, je crois qu'il n'y a pas une idée générale qui guide les pratiques. C'est-à-dire que si ça marche, c'est parce que c'est un mot d'ordre. C'est parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est suffisamment flou pour pouvoir être répété, pour pouvoir labelliser des choses très différentes, mais pour pouvoir aussi servir de coquille vide. C'est-à-dire se déplacer et avoir des effets de pouvoir très clairs. Mais je ne pense pas qu'il y ait un contenu particulier.
Ok. Pas de contenu particulier en termes d'idées de l'État, du point de vue de Marie en tout cas. Mais il y a quand même des réalisations. On va en prendre une. Une des principales si on réfléchit en termes de service pour le citoyen. C'est le bouton France Connect, qui donne une identité numérique unique pour se connecter à différentes administrations. Ça c'est une réalisation de cette période, de ces équipes-là. Alors je voudrais qu'on s'y attarde un petit peu. C'est quoi l'idée qui préside à la création de ce bouton ?
Le propos très important, c'est la simplification. C'est de dire qu'il faut sortir les usagers du cauchemar des 1001 mots de passe, qui est, c'est une formule de la précédente ministre, et il faut sortir le web administratif en fait, d'un problème que la partie privée et commerciale du web a résolu quelques années auparavant, qui est la fédération d'identité. En fait. Le fait de cliquer un bouton d'identification, par exemple, avec Google, Facebook ou Twitter, y compris pour aller sur Amazon. Et donc, cette idée de simplification s'articule avec un projet de ne plus refaire de l'identification biométrique, mélange des fins administratives et commerciales, et avec une prise en main policière du ministère de l'Intérieur.
J'avais pas idée qu'il y avait quelque chose d'aussi politique dans ce petit bouton France Connect. Piquer au ministère de l'Intérieur le monopole de l'identification. Mais en fait, quand on y réfléchit, c'est assez logique. La question de l'identité, elle a été particulièrement prégnante sous le mandat de Nicolas Sarkozy. On s'en souvient notamment avec le projet INES d'identification biométrique. Permettre aux citoyens de s'identifier par un simple bouton, ça fait partie du processus de distinction par rapport à la mandature précédente. Mais Marie l'a dit, le propos central, c'est la simplification de l'identification numérique administrative. Simplification, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? C'est juste faire moins de papier ? Ce sont les procédures qui sont simplifiées ?
Ce qui est simplifié ici, c'est l'expérience administrative, le travail administratif. C'est l'idée qu'une personne qui est un peu pressée, qui n'a pas le temps d'aller faire deux heures de queue à un guichet des impôts ou de l'assurance maladie, va pouvoir, à peu de frais, réaliser une démarche, non seulement s'identifier pour une procédure, mais aussi échanger des données et fournir des pièces justificatives au lieu de les déposer ou les envoyer par la poste. Et donc, c'est une simplification non pas du droit ou une simplification au sens, comme pourraient l'entendre les néolibéraux, genre moins d'État, couper dans des services publics, virer des gens. Non, c'est une simplification très particulière, celle de l'expérience qui est voulue plus confortable et plus conforme en fait aux standards contemporains du web.
Ça, c'est très intéressant. comment une expérience, celle du web, inspire l'expérience administrative. Là, je comprends pourquoi le terme de plateforme fonctionne à une époque, le milieu des années 2010, hein, où l'expérience numérique est plus partagée et où on peut effectivement s'étonner qu'elle soit à ce point plus fluide que celle qu'on a dans le rapport à l'administration. Même si c'est pas rien l'expérience, c'est même très important hein, dans notre rapport à l'administration et donc à l'État. Eh ben, le propos d'Henri Verdier tout à l'heure, il m'a rappelé que l'État plateforme, c'est quand même vachement plus ambitieux. Que c'est un truc censément plus profond. En fait, là, et j'en fais la remarque à Marie, j'ai juste l'impression que bah, c'est une autre idée de l'interaction avec l'administration.
C'est tout à fait ça. C'est pas une idée haute de l'administration et ça se voit à un point qui est à mon sens assez curieux. C'est qu'en fait, France Connect, c'est un retour à un état civil et même à un état civil extrêmement simplifié. Puisqu'en fait, France Connect, les données qui transitent dans France Connect sont ce qu'ils appellent l'identité pivot. Et donc, c'est vraiment les données les plus élémentaires. C'est la carte d'identité dépouillée, si on veut. Et donc, oui, c'est un certain retour à l'administration dans son travail de l'écrit le plus classique, le plus standardisé. Qui n'est pas du tout la version des plateformes. Quand, par exemple, Google collecte des informations sur nous, constitue des profils à partir de nos traces, ils n'ont pas du tout besoin de savoir où on est né et combien on mesure. Ces informations administratives-là ne les intéressent pas, mais c'est des informations plus comportementales. Alors que France Connect ne sait pas quoi faire d'une information comportementale collectée sur le web pour remplir un formulaire pour permettre à une personne d'inscrire son enfant à la crèche, par exemple.
J'aime bien cette idée de la modernisation qui s'appuie finalement sur une conception assez old school de l'identité. Et c'est vrai qu'on peut trouver ça bizarre à un moment où le numérique permet l'identification par plein d'autres moyens que l'état civil. En même temps, à choisir, je me demande si je ne préfère pas la conception de l'identité version France Connect à celle de Google. Enfin, je veux dire, mon âge, mon lieu de naissance, l'identité pivot, comme dit Marie, ben, en dit beaucoup moins de moi que mon historique de recherche. Je lâche un « heureusement » dont Marie saisit tout de suite le sens.
Heureusement, ça, c'est un point de vue politique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment où la collecte des identités se densifiait et où, par exemple, au ministère de l'Intérieur, mais aussi ailleurs, on considérait qu'il fallait toujours plus de données, qu'il fallait plus seulement avoir nom, prénom, mais aussi la couleur des yeux, aussi la taille, et tout un tas de données de biométrie qui fait qu'on n'était plus, mettons, à 7 données, mais à 35, ça change complètement. Après, il faut préciser quand même quelque chose, qui est que comme France Connect, c'est d'abord une relation homme-machine, c'est aussi une collecte d'une adresse IP et d'un identifiant de machine.
Ah oui, ça, j'avais pas pensé. France Connect, c'est à la fois une idée classique de l'identité et une nouvelle idée de l'identité qui passe par l'identification de la machine. Alors, je vois bien ce que ça pose comme question, voire problème, en termes de liberté individuelle, mais qu'est-ce que ça change dans le rapport à l'État ?
Ça rappelle que ce qui s'invente avec France Connect, c'est un type de relation qui a une relation informatique à l'État. En fait, il n'y a plus un lieu de l'État comme le lieu de l'administration, où il n'y a plus cet objet du formulaire que vous pouvez garder dans vos papiers, mais cette chose très particulière d'une présence diffuse de l'État qui peut être activée en circonstance, qui peut être activée avec une authentification authentique, c'est-à-dire réciproquement, c'est pas juste c'est le site de l'État, c'est authentifié, vous reconnaissez le logo de Marianne, etc. Mais lui aussi vous authentifie de cette même manière. Et donc, c'est une activation de la citoyenneté administrative dans des situations qui transforment le mode de présence de l'État dans la société.
Oui, c'est-à-dire qu'on peut être en lien avec l'État depuis son lit ou un train, moi, ça me paraît un changement énorme. Et j'avais pas réfléchi au fait que France Connect, ce petit bouton, hein, c'était un des agents de ce changement. Bon, il faudra qu'on y revienne. Mais en attendant, une contradiction me frappe. Marie a dit tout à l'heure que l'État plateforme, c'était une sorte de coquille vide sans idée générale. Mais si une des principales réalisations de cette période, France Connect donc, inaugure une nouvelle forme de présence de l'État dans nos vies, c'est beaucoup, non ?
En gros, le mode d'étatisation de la société a changé. Mais il a changé au fil de l'histoire. On n'a pas attendu l'État plateforme pour qu'il change. Dès lors que, par exemple, il y a eu des relations téléphoniques avec l'administration, que, par exemple, je suis en train de lire le livre de Frédéric Graber sur l'affichage administratif au 19e siècle. En fait, c'est passionnant parce qu'il y a un moment où l'État s'affiche dans les bars en disant que voilà l'alcool est interdit à telle catégorie de population. Il y a un moment où l'État s'affiche dans les boulangeries, s'affiche dans l'espace public. Et là, en fait, c'est précisément ces situations-là où le mode de présence de l'État commence à changer. C'est plus la présence incarnée de l'officier qui présente un costume particulier, par exemple le policier ou le préfet avec ses décorations, mais c'est une présence écrite, et cette présence écrite, consultable théoriquement par tous. À mon avis, c'est ça le point de départ.
D'accord. Donc, l'État plateforme, ça n'est pas une rupture, c'est la continuation d'une histoire qui a débuté largement avant lui. L'histoire d'un État qui n'est plus seulement présent par l'incarnation, mais sous d'autres formes, comme l'écrit. Les affiches dans les cafés, donc, comme début de cette présence diffuse de l'État, dont la plateformisation n'est que la poursuite. Je veux bien. Mais quand même, est-ce que ça ne change pas quelque chose, cette relation informatique à l'État ? Est-ce que ça n'est pas à mettre au crédit de l'État plateforme ? Enfin, c'est quand même une sacrée modernisation, non ? Bah, Marie nuance. Une nouvelle fois.
Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les administrations, elles sont parcourues en continu de vagues de modernisation. Et c'est d'ailleurs assez amusant, à chaque fois que des agents modernisateurs se déplacent dans une administration pour faire des tests, présenter une nouvelle start-up d'État ou quelque chose comme ça, ils s'aperçoivent qu'en même temps, il y a une réforme du système d'information qui est arrêtée pour 2 jours, qu'en même temps, on vient de changer toute la signalétique, que le lino a été remplacé. Et donc, en fait, d'une certaine manière, c'est une petite blessure narcissique parce qu'ils ont l'impression d'être une modernisation parmi d'autres dans la vie de ces agents qui n'arrivent pas forcément à faire la différence entre eux et des auditeurs, alors qu'ils ont l'impression de faire ça avec cet engagement très fort pour sauver l'État. Puisqu'en fait, tout ça est chargé d'un très fort messianisme technologique et d'une idée que ça permet de sauver l'État contre la prédation potentielle de Google qui un jour pourra faire mieux que l'État.
Intéressant ce décalage observé entre l'ambition des agents de la plateformisation de l'État et les fonctionnaires qu'ils rencontrent, et qui eux sont aux prises avec un quotidien où s'accumulent les couches de modernisation qui peuvent être très matérielles et sans doute plus importantes sur le moment, comme je sais pas, changer le mobilier ou la signalétique, et sans doute que ça produit une déception. Mais Marie a introduit un autre élément, la défense de la souveraineté. Parce que ça, c'est un autre aspect important de ce moment. Il faut se rappeler que ces années-là, 2012-2013, c'est celles où Jared Cohen et Eric Smith, donc le patron de Google et un haut fonctionnaire américain, publient The New Digital Age, le nouvel âge digital, un bouquin dans lequel ils expliquent que les grandes entreprises de la tech, elles sont 10 fois plus efficaces que l'État et qu'il serait vraiment mieux de leur déléguer toute une partie des politiques publiques. Ça, c'est le discours technologique sur l'État à l'époque, Et il est largement partagé par les géants de la tech. C'est sûr que ça peut sembler un peu menaçant. Alors, je demande à Marie si réformer l'État français, créer des services numériques au sein de l'État, c'est pas une forme de réponse à ce genre de menace.
En tout cas, une des justifications pour faire ce qu'ils font, c'est de dire que, par exemple, il faut inventer une fédération d'identité comme France Connect, parce que sinon, un jour, telle collectivité territoriale va dire, pour inscrire les enfants à la cantine, je vais utiliser l'API Google, et il est hors de question d'utiliser l'API Google, parce que Google est soumis au Patriot Act, que le Patriot Act permet à Google d'envoyer les données sur les parents qui inscrivent leur môme à la cantine au gouvernement américain, que par ailleurs, c'est pas à Google à fixer les standards de l'identité, que l'identité est un monopole d'État. Et donc, il y a cette compréhension d'une souveraineté comme étant une réaction anti-américaine, en tout cas ces États-Unis-là, et anti-plateforme comme étant des choses qui pourraient mettre en danger l'État français.
Oh là là, mais là, moi, je vois un énorme paradoxe. Cette notion d'État-plateforme reprend un terme, celui de plateforme, qui désigne aussi ceux contre qui on veut défendre sa souveraineté, c'est-à-dire les grandes plateformes de la tech. Alors, je fais la remarque à Marie.
Oui, c'est complètement paradoxal. Et le paradoxe va loin, parce que par exemple, le bouton France Connect, donc déjà, Connect, c'est de l'anglais, mais en fait, c'est le nom de l'API Facebook qui s'appelle Facebook Connect. Donc, personne connaît le nom du bouton Facebook parce que c'est le nom technique, Facebook Connect. Mais ça a été quand même construit par analogie avec ça. On a remplacé Facebook par France. C'est d'une certaine manière, ça peut paraître paradoxal, mais c'est pour ça que je disais qu'il ne faut pas tout prendre les choses par les idées parce qu'elles n'ont pas forcément une cohérence dingue. Certaines produisent des effets de mise en ordre et ensuite, on a l'impression qu'elles sont cohérentes.
En entendant Marie dire ça, je me demande si on a vraiment dépassé aujourd'hui ces paradoxes dans la manière dont l'État envisage la question numérique. Par exemple, il y a un truc qui n'est pas complètement cohérent chez Emmanuel Macron. D'un côté, il fait de l'usage du smartphone par les jeunes un « problème civilisationnel », je cite, qui serait à la fois l'explication des mauvais résultats scolaires des élèves français dans la fameuse enquête PISA, et une cause de l'embrasement dans les banlieues en juin dernier, parce que ces jeunes, ils gamifient le réel. Bon, et d'autre part, Macron a voulu transformer la France en Startup Nation.
Parce que c'est notre projet !
Il fait encore aujourd'hui des vidéos pathétiques sur TikTok pour aller chercher les jeunes qui sont précisément dans ces réseaux. Et son gouvernement valorise l'innovation dès qu'elle est française, même si elle n'est pas beaucoup plus vertueuse que ses concurrentes américaines ou chinoises. Et je me demande si ces contradictions ne sont pas un leg de ce moment d'état plateforme dont la cohérence n'est pas la marque de fabrique la plus évidente. Mais tout à l'heure, Marie a parlé de quelque chose qui pourrait expliquer ces formes de contradictions. Elle a employé l'expression de messianisme technologique. Alors, j'aimerais bien qu'elle y revienne. Comment il se formule, ce messianisme technologique? Quelle idée on se fait de ce que pourrait apporter la techno à l'État?
Je dirais qu'il y a deux choses. La première, c'est qu'en fait, la technologie, dans ces situations-là, elle suscite une forme d'égaiement. Elle rend les gens assez fiers de travailler pour l'État. Par exemple, je pense qu'on peut comprendre comme ça l'équipement de la police. En fait, c'est un métier dur que le métier de policier. Et d'une certaine manière, si vous dites aux policiers que vous leur donnez un super équipement, qu'ils ont droit d'avoir une voiture connectée, qu'ils peuvent capter les données des passants, qu'ils deviennent d'un coup des acteurs de la technologie, là, ça rend leur travail plus gai. Ça donne une forme d'illusion qui est peut-être très temporaire, très fragile, mais qui réenchante ce que c'est que travailler pour l'État, y compris dans des métiers qui sont des métiers extrêmement difficiles. Donc ça, je pense que cette dimension d'égaiement pour les agents, elle n'est pas totalement attendue, mais à mon sens, elle est très importante. Et la deuxième chose, c'est que ça fait se multiplier des expérimentations, des démonstrations. On a l'impression que l'État peut s'autoriser à faire ce que font les plateformes tout le temps en continu sur nous, c'est-à-dire expérimenter des nouveaux comportements pour voir ce que ça fait. Si on est noyé de pub sur Facebook, on reste ou est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on arrive à devenir client de telle ou telle marque? Cette expérimentation numérique, elle est reprise à son compte par l'État. Alors, pas exactement de la même manière que les plateformes, puisqu'il ne s'agit pas forcément de nous vendre des choses, mais il s'agit de pouvoir dire, et c'est là qu'on retrouve le messianisme technologique, que c'est le futur, bon, mais là, on le voit en modèle réduit, mais là, on le voit que sous une forme de test, là, c'est une démo, mais il y a toujours cette représentation un peu incantatoire, sous la forme d'expérimentations, qui sont en fait éminemment bricolées et fragiles, mais qui font partie de cette manière de présenter les choses avec enthousiasme, suscitant un enthousiasme et l'incompréhension aussi d'une partie de l'administration.
Alors là, je ne m'attendais pas du tout à cette réponse. Et ça me passionne, parce que Marie y répond du point de vue des agents. Et c'est passionnant aussi que les deux mots clés de ce messianisme technologique soient, selon elle, et si je résume, gaieté et enthousiasme. Gaieté parce que les agents ont l'impression d'être bien traités et enthousiasme parce qu'ils participent à des expériences qui font apercevoir ce que pourrait être l'avenir de l'administration. Évidemment que l'émotion est à l'œuvre partout, hein, mais je pensais pas qu'elle était à ce point présente dans le messianisme technologique et de manière aussi opérante. Alors, entendons bien, je ne méprise pas ces émotions. Mais c'est étonnant parce qu'elles paraissent primées sur d'autres éléments qui auraient pu être l'idée que se font ces gens de l'État, l'envie d'autres relations avec les administrés, etc. Néanmoins, une chose m'intrigue dans ce que dit Marie. Ce sont les expérimentations branlantes dont elle parle. Je ne sais pas bien à quoi elle pense.
Je pense par exemple à ce que font les startups d'État. Ce que font les startups d'État, ça va être construire une interface colorée, répondre à un problème historique que se pose l'État et qui correspond parfois à la carrière de plusieurs générations d'agents. Et en disant non, en 6 mois, quelques jeunes gens, mais bien équipés, qui savent coder en Python, vont réussir à résoudre le problème. Par exemple, la startup d'État qui est la première, et donc qui a une vocation de modèle, qui est la startup d'État MEZ, qui s'est attelée entre autres au problème du non-recours aux droits sociaux, qui est un vieux problème de l'administration. Et donc MEZ, c'est une start-up d'État où des gens, des développeurs, peuvent se passer de juristes, peuvent se passer d'assistantes sociales, concevoir un moteur de règles et avec ça, et quelques démos, présenter un simulateur de toutes les aides qui permettent donc de sauver les personnes par la bonne information de cette chose terrible qu'est le non-recours aux droits sociaux.
Je vois ce que Marie veut dire. Un site comme mez.gouv.fr, il repose sur l'idée que le non-recours aux droits sociaux, c'est juste un problème d'information. Si on est gentil, on dit que c'est un raisonnement hérité de la cybernétique et qui est encore aujourd'hui très présente dans la tech. Un raisonnement qui veut que la clé de voûte de tout, c'est l'information. S'ils sont bien informés, les gens feront ce qu'il faut. Mais si on est plus méchant, on dirait que c'est d'une naïveté confondante. Moi, je peux pas m'empêcher de voir là une forme de mépris pour les gens qui réfléchissent depuis très très longtemps à cette terrible question et qui savent qu'elle est beaucoup plus compliquée que l'information. Mais alors, du coup, je demande à Marie comment s'est perçu ce type d'initiative par les agents de l'administration. Est-ce que c'est pas un peu insultant ?
Au sein du groupe professionnel des agents modernisateurs de l'État, il y en a qui regardent ça avec effarement et qui disent « Non mais qui sont ces cool kids qui débarquent et qui sont en train de réinventer la roue ?» Mais aussi pour les personnes qui travaillent, il y a ceux dont je parlais tout à l'heure pour qui c'est un égaiement, un enchantement, et c'est des gens qui peuvent être dans les cadres intermédiaires de l'administration, mais pas forcément. Effectivement, c'est insultant. Je l'avais vu dans le cadre d'un projet de réforme des guichets de la retraite. Une des agentes disait « Bon, bah, vous nous avez présenté notre métier. Moi, ça fait 40 ans que je le fais. Vous ne m'avez rien appris sur mes problèmes. Visiblement, vous avez beaucoup appris. Ça vous a fait plaisir. »
Oui, mais enfin, ça, c'est sans doute quelque chose qui s'étend à plein de rapports entre les gens qui pensent les solutions informatiques et ceux pour lesquels on les pense. Mais, et c'est lié, hein, j'ai été étonné par une chose en lisant la thèse de Marie. Apparaît très peu la question de la fracture numérique dans les propos de ces personnes qui œuvrent pourtant à ce qu'ils appellent l'État plateforme. Ça m'étonne beaucoup. Ça m'étonne déjà aujourd'hui. Mais alors que des gens ne s'en préoccupent pas en 2016, il y a 10 ans, ça m'étonne encore plus. Je demande à Marie quelle est son explication.
Je ne sais pas si j'ai l'explication définitive, mais j'ai l'impression que c'est parce que ce n'était pas considéré comme étant dans le mandat, ne serait-ce que du fait du mode de fonctionnement par projet. Dès lors qu'on pense par projet, on fait ce projet-là. Et il n'y a pas ces questions globales de politique publique qui sont prises. En fait, c'est aussi une manière de s'inscrire dans la durée qui ne se fait pas. C'est très spécifique au temps des projets. Et par ailleurs, je pense que les grands rapports qui ont mis au jour l'importance de la fracture numérique et son renforcement ces dernières années, qui excluent définitivement certaines catégories de population, ils arrivent plutôt, en fait, une fois que l'État plateforme s'est devenu ringard et qu'on n'en parle plus dans l'administration. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne continuent pas à travailler de la même manière, mais c'est pas considéré comme une priorité.
Ok, je comprends. En fait, comme l'État plateforme n'est pas une grande politique publique, globale et concertée, mais plutôt, dans les faits, une accumulation de projets, on pense assez peu aux effets de ce type de relation si elle devait se généraliser. Donc, on ne s'intéresse pas vraiment à la fracture numérique. Alors, on s'y intéresse plus tard, aujourd'hui. Mais je me demande si quelque chose ne perdure pas dans cet état d'esprit, dans une forme d'imperméabilité entre l'innovation d'un côté et la pensée de la fracture numérique de l'autre. Un jour, j'en discutais avec un monsieur qui fait du lobbying pour un grand opérateur téléphonique étranger qui essaye de développer la 5G en France. Et il me vantait alors, les bénéfices attendus de la 5G à grand renfort d'exemple. Et moi, j'ai commencé à lui faire mon couplet sur les ravages de la numérisation à marche forcée à la suite du Covid, des gens que ça laissait sur le bord de la route et tout. Et il m'a regardé avec des yeux ronds et il m'a dit qu'il n'y avait jamais pensé. Et que cette question, d'ailleurs, elle était totalement absente des discussions qu'il avait avec ses interlocuteurs au sein des ministères français. Alors, je sais bien que la 5G, c'est pas directement lié à l'État plateforme. Mais je me demande si ce que raconte Marie ne fait pas partie de cette histoire où il n'y a pas de politique publique numérique dans sa globalité, où l'innovation est séparée de la question sociale. Mais Marie, dans son raisonnement, elle a glissé un mot qui m'étonne. Elle a dit que l'État plateforme était devenu ringard. Alors, depuis le début de notre discussion, j'ai bien compris que j'avais pris trop au sérieux une idée qui n'est qu'un moment de l'histoire de l'État. Ok, mais de là à ce que ce soit devenu ringard, alors la question évidemment c'est, est-ce que c'est devenu ringard parce que ça a échoué ?
Je ne sais pas si ça a échoué. Ce que je sais, c'est que la manière dont se pense la réforme de l'État en France, c'est très lié au régime présidentiel. C'est-à-dire, un président imprime une administration, la met selon son inclination plutôt dans un service du Premier ministre pour que ce soit un espace neutre interministériel avec un grand pouvoir de convocation, plutôt à Bercy quand il s'agit de l'arrimer à une politique de réduction des budgets. Et donc, quand Emmanuel Macron était élu en 2017, il décide d'imprimer une fracture dans ce qu'est l'administration de la modernisation de l'État, en coupant son volet développement numérique de son volet innovation pas numérique. Et là, il faut trouver des nouveaux mots d'ordre, il faut trouver un nouveau vocabulaire. Et pour trouver un nouveau vocabulaire, il faut aussi bannir le vocabulaire d'avant pour dire qu'on fait autre chose, qu'on a un autre programme d'action présidentiel. Et donc, l'État plateforme devient un terme à bannir.
Mais ça continue.
D'une certaine manière, mais en tout cas, du point de vue de la direction interministérielle du numérique, à ce moment-là, 2017-2018, le syntagme « État plateforme » est réattribué à la personne d'Henri Verdier. On fait comme si c'était son programme et donc un moment fini de l'histoire. Mais même si, par exemple, on continue à maintenir France Connect, on fait comme si c'était plus pour l'État plateforme.
Ok, je comprends. L'État plateforme, le mot, hein, disparaît avec la fin du mandat et ceux qui l'avaient porté comme Henri Verdier. D'ailleurs, en 2018, hein, il n'est plus directeur interministériel du numérique et il est nommé ambassadeur pour le numérique, une toute autre fonction. Mais ça n'empêche pas le mouvement de continuer. Ça, c'est le jeu un peu cruel de la politique. Alors, est-ce que là, on trouve un nouveau mot pour faire la même chose ?
Peut-être que ce qui s'en rapproche le plus, même si je me méfie de ce que je vais dire, ce serait l'idée d'administration proactive, qui est l'idée que l'administration est suffisamment informée sur les personnes pour pouvoir leur proposer des services. Et donc c'est en fait d'une certaine manière une reformulation de l'idée de la plateforme, cette idée de personnalisation du service, de réduction de la charge de travail administratif qui s'applique, mais d'une manière un petit peu différente, peut-être plus modeste que quand on dit état plateforme, moins messianique, je sais pas.
Administration proactive. J'avoue que je n'avais pas entendu cette expression. Mais c'est intéressant, cette idée de la personnalisation du rapport à l'État. En effet, c'est plus modeste, et c'est peut-être le signe d'ailleurs que le rapport à la technologie a un peu changé par rapport au début des années 2000. Alors, j'ai bien compris toutes les réserves que Marie à développer au sujet de cette politique de l'État plateforme. J'ai bien compris que je m'étais illusionné en pensant que c'est le moment bascule de nos vies administratives. Néanmoins, si elle devait en faire un bilan global, est-ce que Marie accorderait quelques réussites à ce moment ?
Je dirais que dans l'État plateforme, il y avait beaucoup de projets qui commençaient, très peu qui aboutissaient, du fait de ces méthodes que j'évoquais tout à l'heure, par démonstration, par des petites équipes. Et donc, de fait, beaucoup de technologies ont été abandonnées, mais il faut dire aussi que beaucoup des technologies, c'était des technologies fragiles, qui supposaient, une maintenance du système d'information qui n'était pas durable dans le temps, qu'il aurait fallu refaire tous les mois ou tous les trois mois. Et ces choses-là, en fait, je pense que France Connect est l'une des principales qui reste avec l'open data. Donc, d'une certaine manière, la politique d'open data, elle a réussi parce qu'elle est devenue une politique publique comme les autres. Même si elle a sans doute abandonné la réflexion sur les algorithmes, par exemple, au passage. Et oui, et France Connect est devenue une nouvelle infrastructure de l'État et donc d'une certaine manière a réussi.
Tout n'a pas disparu, donc. Et c'est vrai que l'open data, donc le fait de rendre accessibles les données publiques et d'intérêt général, c'était aussi un axe fort de ce que défendaient Verdier et Collin. Mais c'est devenu un des piliers de la loi pour le numérique que la secrétaire d'État Axelle Demers a fait voter en 2016. C'est pour ça que Marie dit que c'est devenu une vraie politique publique. Bon, alors l'open data, il faudra en faire le bilan détaillé, hein, ce qui prendrait un épisode entier. Mais bon, on peut pas nier qu'on en vit encore aujourd'hui les effets très concrets. Il n'y a qu'à écouter l'épisode qu'on avait consacré aux annotatrices de la Cour de cassation. Mais Marie a aussi évoqué rapidement la réflexion sur les algorithmes, comme elle dit. Ça, c'était dans la loi pour la République numérique. Cette loi avait introduit un principe de transparence des algorithmes publics qui servent à fonder des décisions administratives individuelles. Alors justement, est-ce que c'est pas à ce moment-là aussi, entre 2012 et 2017, que naît la conscience que de plus en plus de décisions administratives individuelles sont prises par les algorithmes ? Et c'est vrai que cette période, c'est aussi celle où j'ai l'impression se multiplient ces algorithmes publics. La répartition des élèves dans les lycées parisiens, par exemple, et puis ensuite ce sera celle des étudiants dans le supérieur avec Parcoursup. Mais on peut penser aussi à plein d'autres décisions. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe aussi de ce côté-là ?
Par exemple, on prend les aides sociales. Les aides sociales, en France sont calculés automatiquement depuis quasiment le début des aides sociales par des vieux programmes en COBOL. Et puis en 96, il y a un grand programme qui calcule toutes les prestations de la Caisse nationale d'allocation familiale. Donc je crois à l'époque, c'est on va dire 16 ou 17 prestations, c'est un peu plus, c'est 24 ou 25 maintenant. Bon, ces algorithmes, en fait, ils sont vieux. Mais ce qui change avec le moment et ta plateforme, c'est le fait de dire, bah en fait, ces algorithmes, c'est pas juste un problème interne à l'administration. Il faut être redevable vis-à-vis des citoyens de ces formes algorithmiques. Alors c'est quelque chose qui est en fait inscrit dans la loi depuis le début et qu'on a oublié. On a organisé l'oubli d'une partie de la loi informatique et liberté. Et à ce moment-là, on redécouvre avec une formulation qui est celle de la redevabilité et de la transparence vis-à-vis des citoyens, qui promeut un type de transparence qui est extrêmement particulier et atypique, puisque c'est une transparence pour les machines. Mettre à disposition un code source de X milliers de lignes dans un langage de programmation, même quelqu'un qui est expert de l'informatique, vous direz qu'un code source, on ne peut pas immédiatement savoir comment une décision est prise à partir du document. Il faut encore plein d'autres choses.
Est-ce qu'on peut prendre un code source et l'expliquer par des mots ?
On peut prendre un code source et l'expliquer par des mots. D'ailleurs, c'est ce genre d'initiatives qui sont promues lors des hackathons. Par exemple, le hackathon autour de Parcoursup était un hackathon qui visait à expliquer comment a été faite la décision. Et par ailleurs, des administrations comme la CNIL réfléchissent beaucoup à ces sujets de l'explicabilité algorithmique. Mais sinon, enfin, l'administration a cette intelligence de créer des fictions d'explication. Par exemple, votre feuille de salaire ou l'avis d'imposition sont des documents qui sont des fictions explicatives, qui donnent l'illusion ou une simulation en ligne de combien vous allez payer d'impôts ou avoir droit d'aide sociale, sont des fictions explicatives de comment elle fait un calcul. Mais en fait, c'est une reconstitution de comment fonctionne la machine, mais la machine, elle passe par plein de calculs intermédiaires et plein d'opérations qui vous sont masquées par ces fictions explicatives-là. Elles n'intéressent pas forcément le citoyen qui veut juste connaître les droits, mais le fait d'être transparent ou non dessus, ça a des impacts politiques sur le type de redevabilité que met en œuvre l'État.
Le fait que ce soit des fictions, ça ne veut pas dire que c'est faux.
Ça veut dire que c'est des formes de simplification qui ne disent pas exactement comment a raisonné la machine. Donc, d'un point de vue informatique, c'est faux. Si c'est correct du point de vue du raisonnement juridique qui sous-tend l'attribution des droits, ça peut être bien.
Alors ça, c'est passionnant, cette idée de la fiction explicative. C'est assez abyssal, hein. Mais c'est passionnant sur le fait qu'il y a quelque chose qui nous est presque inaccessible dans la manière dont la machine calcule à partir du droit. Bon, ça, il faudrait y revenir un jour. En attendant, je reste sur mon état plateforme, si j'ose dire. C'est donc pas non plus un moment où la relation à l'État devient plus algorithmique. C'est plutôt un moment où naît un souci de redevabilité et de transparence des algorithmes. Néanmoins, Marie, elle a dit qu'on avait un peu abandonné cette réflexion. Et c'est vrai qu'on entend moins parler aujourd'hui des associations qui s'étaient créées à cette époque pour œuvrer à l'explication des algorithmes ou à leur surveillance. Je sais pas pourquoi, ça s'est passé comme ça. Mais bon, moi je renonce pas à chercher d'autre chose que ce moment d'état plateforme aurait changé dans notre vie administrative. Et j'entrevois des trucs, hein. Ok, les réalisations sont sans doute moins nombreuses et spectaculaires que je ne le croyais. Mais est-ce que, globalement, ça n'a pas commencé à nous accoutumer au simple fait d'avoir recours à des interfaces numériques pour interagir avec l'État ? Est-ce que c'est pas ça que l'État plateforme a enclenché ?
Si, mais déjà, il n'y a pas que l'État plateforme qui dirige la création de services publics en ligne. En fait, chaque administration fait, et depuis longtemps, des services publics en ligne. Par exemple, l'administration des impôts, qui est une des pionnières là-dessus, n'a pas du tout attendu l'État plateforme. Donc, l'État plateforme, c'est un moment, je pense, de cristallisation d'une réflexion, d'enthousiasme. Mais c'est pas toute l'administration, c'est pas tout l'État. Et finalement, quantitativement, c'est sans doute très peu de nos services publics en ligne, quoi.
Oui, bon, encore une fois, la Marie, elle me rappelle à mon envie d'enjoliver mon sujet. Un grand nombre de nos interactions numériques avec l'État n'ont pas grand-chose à voir avec l'État plateforme. Elles sont juste le fruit d'une modernisation des administrations elles-mêmes, presque de manière endogène, si je puis dire. Ça, je pense que c'est fondamental. C'est la raison de ma confusion depuis le début. Il y a l'État plateforme d'un côté, qui est donc un moment de la modernisation de l'État, qui a son histoire, ses acteurs et ses réalisations. Et puis, il y a un autre mouvement qui est celui de la modernisation des administrations, qui peut arriver à des résultats qui ressemblent à l'État plateforme, hein, mais qui, à la fois, le précède et lui survit. Et c'est finalement à ce second mouvement qu'on doit sans doute plus notre vie administrative actuelle. Bon, moi, la conclusion que je tire de tout ça, c'est que ça ne modifie pas fondamentalement notre rapport à l'État. Et je demande à Marie si je me trompe.
ça modifie pas fondamentalement, mais ça rend l'État présent et très possiblement présent dans plein de situations de la vie où il ne l'était pas. Pas pour la surveillance, hein, mais pour activer des services, ce qui fait de nous plus souvent ou plus facilement ou plus discrètement des utilisateurs de services publics. Ce qui change le rapport au travail administratif. Le travail administratif peut être fait un peu n'importe quand, de chez soi. Et donc tout ça, ça crée une expérience diffuse et un mode de présence de l'État qui n'est jamais débattu, en fait. À aucun moment, on a discuté de savoir si on trouvait ça bien de pouvoir avoir, d'une certaine manière, accès à l'État chez soi ou sur son mobile, ou si on trouvait que c'était des formes acceptables de la citoyenneté que de pouvoir être identifié de cette manière-là. Jamais le problème n'a été posé comme quelque chose qui peut être délibéré.
En effet, c'est étrange, cette absence de discussion autour de quelque chose d'aussi important. J'avoue que je ne me l'explique pas tout à fait. Pourquoi on ne discute pas de ça ?
Je pense qu'on n'en discute pas parce que les savoirs de gouvernement qui cadrent cette situation, que ce soit l'informatique, le design, sont des savoirs qui ne sont pas très préoccupés par la politique et la délibération. Ils ont un rapport assez normatif à l'efficacité. Si c'est adopté, c'est que c'est bien. C'est une pensée à la fois politique, assez libérale, et c'est une pensée qui se passe du droit, en fait, très largement de la connaissance du droit.
Ce que dit Marie, là, ça me fait penser à tout ce qu'on a vécu pendant le confinement. Les attestations, les QR codes de vaccination, etc. On a vécu des trucs de fou en termes de présence de l'État. Et une grande partie s'est imposée par le truchement des outils numériques, par souci d'efficacité. Mais là encore, j'ai une question. Pourquoi le numérique est-il si propice à ce genre de contournement du processus démocratique ?
Je suis convaincue que ça a à voir avec le mode d'existence de la technique. Je pense que on ne sait pas bien faire parler la technique, on ne sait pas bien faire parler politique la technique. Quand on fait parler politique la technique, la plupart du temps, on le réduit à l'idéologie ou aux conceptions politiques qu'ont ou aux trajectoires qu'ont les concepteurs. On ne pense pas bien le type d'autonomie qu'a cette technique et ce qu'elle est capable d'imprimer après. Les effets de la technique, c'est quelque chose qui, je pense, est assez peu et assez mal compris.
Là, je bois du petit lait. J'ai l'impression que Marie, elle est en train de résumer la moitié des épisodes du Code à changer. Et au fond, État plateforme ou pas, c'est bien ce qui est central dans nos vies administratives désormais numérisées. Le mode d'existence du numérique en fait parfois, souvent, un terrain extérieur au droit. Mais je note un truc. D'elle-même, Marie a étendu le problème du numérique à la technique en général. Et je lui demande si elle a pu constater le même phénomène avec d'autres technologies qui se sont imposées à nous sans délibération.
Le nucléaire, en fait, toute la conception des technologies nucléaires qui a fait naître le gros de la philosophie des techniques du XXe siècle et des interrogations sur la politique de la technique, oui, c'est ça, en fait. Et c'est l'État qui met en branle la société autour d'un projet technique qui est un projet à la fois, par exemple, en France, de rayonnement de la France, récupéré pendant la colonisation, une puissance qui suppose l'atome, mais qui est aussi voilà, un rayonnement qui permet la guerre, quoi. Et donc, oui, le nucléaire et plein d'autres situations autour des grands projets d'aménagement, je pense, c'est la même chose. C'est aussi des situations dans lesquelles l'État, par la technique, met en œuvre un type de politique qui tait largement son nom et qui est peu délibéré.
Voilà, c'est drôle ce qui s'est passé pendant cette discussion avec Marie. En un sens, elle a tout de suite balayé mon hypothèse de départ, qui était que l'État plateforme est une notion centrale pour comprendre notre rapport à l'État aujourd'hui. En même temps, elle a éclairé plein d'aspects de ce qui m'intéressait au départ. L'impression qu'il y avait eu ces derniers temps des changements importants dans la présence de l'État. L'impression qu'il y avait des contradictions fondamentales dans la manière dont se manifeste cette présence. Le sentiment que plein de manières d'interagir avec l'État nous avaient été imposées, sans discussion. Finalement, je suis pas loin d'avoir éclairé ce que je voulais éclairer. Merci beaucoup à Maria Lozen pour cette discussion qui n'a pas du tout été décevante comme elle a pu le croire. Ses travaux sont en lien sur la page du Code à changer. À la prise de son, c'était Marie Potier, au mixage Basile Bocquer et Cédric Diallo, réalisation Anaïs Reinhardt. C'était Le Code à changer, un podcast original de France Inter.